De quelle génération suis-je? De quelle génération est-ce que je suis? Pasteur Walter, dimanche passé, dimanche précédent, nous a simplement renseigné sur le fait qu'il y avait les baby boomers, qu'il y avait la génération X, Y, Z. Mais il y a une chose qui est sûre, tu n'es pas de la génération des losers. D'accord? Parce qu'en Christ, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Amen. Et si tu n'es pas convaincu de cela, sache que tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé, et l'amour de Jésus te rend vainqueur et même plus que vainqueur. Je vais encore prier. Seigneur, moi je te remercie pour ta parole ce matin. Je te prie qu'elle puisse vraiment toucher nos cœurs. Seigneur, ta parole est vivante. Elle va me transformer. Elle doit me transformer parce que toi, tu es la parole vivante, Seigneur. Et ce matin, je me réjouis de vivre ce temps de grâce. Nous plongeons les regards dans la parole de Dieu. Nous allons vivre la parole de Dieu. La parole de Dieu qui n'est pas seulement là pour être écoutée, mais surtout pratiquée en toi et grâce à toi. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci de me rendre par ta parole plus que vainqueur parce que tu m'as aimé. Tu nous as aimé et tu nous as révélé ton plan par ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Comme introduction, il y a aussi encore ce rappel de cette image de la flèche, de ces trois parties basées sur ce que le pasteur Walter nous a donné donc, et apporté dimanche passé en Joël 2:28 et en Actes 2:17 pour ce qui est de la naissance de l'Église. Donc, vos fils et vos filles prophétiseront, c'est la pointe, vous vous souvenez? La tige ou la lancée ou on va dire le manche. Bon, vous n'êtes pas des manches. Mais il y a quand même un manche dans une flèche, d'accord? Le manche, eh bien, c'est vos jeunes filles et vos jeunes auront des visions. Et puis, il y a toute la partie, la troisième partie des plumes qui sont là pour diriger la flèche parce que sans les plumes, eh bien, la flèche ne peut pas atteindre sa cible. Alors, j'ai un aîné qui m'a gentiment dit dimanche passé, écoute Jean-Paul, je crois que j'ai perdu quelques plumes, moi. Mais en tant qu'aîné. Mais l'essentiel, c'est qu'on garde nos plumes, qu'on ne soit pas déplumé par l'ennemi, amen, mais qu'on garde nos plumes. Et même si tu es plume ce matin, peut-être que tu te sens d'un poids léger, eh bien, tu as besoin de rester et de demeurer là où le Seigneur t'a placé parce que tu es vraiment dans cette lignée de l'intergénérationnel, de cette flèche qui va voler jusqu'à son but parce qu'une flèche doit atteindre un but, amen. Et par cela, eh bien, l'Église va atteindre ce but. Et si elle n'atteint pas le but, nous sommes dans le péché. Vous savez que la dimension d'atteindre la cible est dans le plan de Dieu. Et si nous n'atteignons pas la cible, eh bien, nous sommes dans le péché parce qu'en hébreu, le fait de ne pas atteindre la cible nous place dans le but manqué, c'est-à-dire dans le péché. Tout ce qui n'atteint pas la cible dans le Seigneur est péché. C'est pour ça que la flèche est tirée et qu'il faut l'intergénérationnel pour que l'Église puisse bien remplir sa mission, celle d'annoncer l'Évangile, celle de permettre que l'Évangile soit propagé, celle de permettre que l'Évangile puisse être aussi donné beaucoup plus loin afin que ceux que le Seigneur ajoute à l'Église soient pleinement sauvés. J'espère que vous dites amen à cela. Ce que pasteur Walter nous a aussi dit, dans cette dimension de la flèche, nous retrouvons ce discours de ces fils et ces filles qui prophétiseront, de ces jeunes qui auront des visions, de ces vieillards qui auront des songes. Tenez-vous bien dans le discours de la Pentecôte et dans la naissance de l'Église, justement. C'est là que nous trouvons l'intergénérationnel déjà rassemblé. Ne dites pas que l'Église, c'est seulement une Église de vieillards ou une Église de jeunes. L'Église est une Église intergénérationnelle. Amen. Faites de jeunes et de moins jeunes, tous âges. La preuve, tu es ici dans une génération. Tu ne peux pas t'exclure de la génération dans laquelle tu te trouves. Tu fais partie d'une génération. La preuve, tu es en vie, tu es là, tu es présent. Et le Seigneur rassemble ces générations dans l'Église pour atteindre le but qu'il a, c'est l'évangile qui soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre par la puissance de l'Esprit, en étant revêtu de l'Esprit. C'est comme cela que nous trouvons justement ce passage dans Actes 2 où il y a l'effusion de l'Esprit, où il y a la dimension de l'Église qui se rassemble, où l'Église est naissante par l'intergénérationnel. On ne peut pas vivre l'Église sans le rassemblement de toutes les générations. Je pense que vous l'avez bien compris, mais je me permets juste de nous le rappeler encore aujourd'hui. J'ai tellement besoin d'incarner cette notion. L'Église, eh bien, ce n'est pas moi tout seul. Heureusement, ce serait tellement misérable s'il n'y avait qu'un Jean-Paul au milieu de l'Église. Heureusement que nous sommes tous rassemblés et que nous vivons l'Église ensemble, avec des couleurs différentes. Les races, eh bien, c'est égal. Comme je l'ai déjà dit, nous avons tous le cœur rouge, rempli de sang. Et le même cœur qui bat. Amen. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a rien dans l'intergénérationnel. L'Église est faite des hommes et des femmes de foi qui sont sauvés par grâce et que Dieu a rendu plus que vainqueurs par Jésus qui nous a pleinement aimés. Amen. Dans le partage, je voudrais revenir sur la notion du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob. Alors, il y a une clé là, parce que la première mention du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob, lorsque Dieu s'est révélé, c'est à Moïse en Exode 3. C'est la première mention où, quand Dieu se révèle à Moïse, il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Maintenant, si on regarde le contexte de cette déclaration dans Exode 3, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un Moïse livré à lui-même, pourquoi? Parce que c'est par un meurtre qu'il désire libérer Israël de l'esclavage d'Égypte. Et on voit qu'il y a sa chair qui est là. Et vous vous souvenez de l'épisode où il y a un Égyptien qui maltraitait un Israélite. Et il y a Moïse qui intervient avec l'autorité que le Pharaon lui avait donnée. Parce que vous vous souvenez de tout du contexte de Moïse. Et voilà qu'il essaye de délivrer par sa force cet Israélite de la main de l'Égyptien. Et par sa force, finalement, Moïse doit fuir et doit se rendre dans le désert où il est tout seul, où il est là, on va dire peut-être abandonné à lui-même. Et ce qui est extraordinaire dans la grâce de Dieu, c'est que Dieu va le rencontrer là tout seul par le buisson ardent sur cette terre sainte. Parce que Dieu lui demande, Moïse, tu es sur une terre sainte, il faut que tu ôtes tes souliers parce qu'il y a ma présence. Et dans cette terre sainte, il y a cette révélation, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je ne suis pas le Dieu de Moïse tout seul qui essaye de délivrer mon peuple par sa main. Tu as besoin de faire partie de la génération des vainqueurs. Tu as besoin de faire partie de cette génération du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour mener ta mission. Tout seul, tu ne vas pas la mener, ta mission. Ce n'est pas possible. Tu dois avoir cette intégration dans le Dieu de tes pères. Tu es sur une terre sainte. Et c'est là que les choses vont commencer à se passer. Et là, Moïse est complètement désemparé. Si vous parcourez ce passage d'Exode 3, il est complètement désemparé. Il ne saisit pas que ce Dieu est suffisamment tout-puissant pour agir au travers de sa vie parce que Moïse est encore pris dans l'esclavage, justement, de sa chair et de sa force. Et c'est pourquoi il est tout seul devant Dieu. Il doit intégrer cette notion des générations. Et vous trouvez cela dans Exode 3, verset 6 et versets 15-16. Et si on lit ce passage, eh bien, regardez ce qu'il a dit. « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Vous vous rendez compte? On a parlé de la crainte de l'Éternel. Et la crainte de Dieu commence par cette révélation de « Je suis ce Dieu intergénérationnel. » Et ce matin, alors que toutes les générations sont représentées dans l'Église, nous devons craindre l'Éternel parce qu'il y a sa présence qui est au milieu de nous et nous n'allons pas faire n'importe quoi. Quand le peuple de Dieu est là, quand il y a ces générations qui sont représentées, vous savez, il y a plein de clés dans ce passage. Et tout en prêchant, il y a plein de choses qui viennent comme cela à mon esprit. Tellement c'est fort. La crainte de l'Éternel est là lorsque le Dieu intergénérationnel, lorsque les générations sont rassemblées, c'est là que Dieu se trouve. Amen. Dans le peuple de Dieu. Et là, Moïse se cache le visage. Parce qu'il reconnaît, il commence à reconnaître ce Dieu absolument extraordinaire. Verset 15 plus loin, Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. » Qu'est-ce que tu leur diras ? L'Éternel, le Dieu de vos pères, et on retrouve la formulation, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers nous. Il y a cette autorité dans l'intergénérationnel. Il y a ce sceau de Dieu. Lorsque tu reconnais que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu t'intègres dans la génération de ceux qui marchent par la foi. Sinon, ce n'est pas possible de mener pleinement l'œuvre. Je crois qu'il y a vraiment tellement de clés ce matin dans ce texte absolument extraordinaire. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération. On le retrouve en génération. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là que je vais déployer ma puissance, c'est là que je vais glorifier mon nom, c'est là que je vais opérer en votre faveur, c'est là que je vais vous délivrer. C'est lorsqu'on respecte ce Dieu intergénérationnel qui bâtit avec les générations passées, qui bâtit avec la génération actuelle et qui bâtit avec la génération d'après. Heureusement que ce n'est pas après moi le déluge, parce que souvent on croit qu'on est seul au monde. Hein. Après moi le déluge, ensemble, non, attention, dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob et celui qui va continuer à agir jusqu'à son retour par l'Église qui révèle l'infinie sagesse de Dieu par l'Église, par le peuple de Dieu. Oh Seigneur, aide-nous à intégrer cette notion. Aide-nous, Seigneur, à rester suffisamment humbles pour comprendre ces choses. On retrouve cette formulation du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tenez-vous bien. On le retrouve dans le martyr du diacre Étienne en Actes 7, 32, où là, Étienne fait partie de cette génération qui sont là pour complètement se donner pour le Seigneur. Et alors qu'il vit le martyr, vous pouvez lire dans ce passage d'Actes 7, il révèle de nouveau ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Étienne a tout compris parce qu'il est intégré dans la génération de ceux qui sont pleinement sauvés par grâce au point de donner sa vie et de rappeler juste avant qu'il parte, simple cours au ciel, alléluia, juste avant de partir, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le verset 32. Du chapitre 7 de ce diacre Étienne. Quel diacre il était. On aime des diacres comme cela. Et j'espère que je suis aussi diacre de cette manière. Diacre qui se consacre, serviteur, qui a le service jusqu'au bout des ongles pour Seigneur te servir, quoi qu'il arrive. On verra cette dimension sacrificielle tout à l'heure lorsque nous allons un petit peu plus développer ce thème du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On a vu que Dieu se révèle sur une terre sainte. Lorsque Dieu se révèle sur cette terre sainte, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse sort seul d'Égypte suite à un meurtre. Dieu veut le faire sortir d'Égypte avec tout un peuple en besoin de délivrance. Mais pour cela, il doit comprendre qu'il fait partie de cette génération du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pourquoi le Seigneur lui révèle cela. Un maillon de la chaîne. Moïse, oui, c'est un maillon de la chaîne, mais ce n'est pas la chaîne tout entière. Moïse fait partie du maillon de la chaîne de Dieu dans cette intergénération. J'espère que tu te rends compte qu'on a besoin de toi dans ce maillon de la chaîne. Sans toi, la chaîne se brise. Sans ta foi, la chaîne est affaiblie. Sans ton engagement, la chaîne peut se briser. On a une responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Amen. J'espère vraiment te booster ce matin dans la dimension de la foi que le Seigneur veut te donner et animer dans ta vie. Dieu d'Abraham, celui qui a la foi. D'accord, maintenant on va un petit peu voir ses caractères. On va un petit peu se pencher, je ne prétends pas tout voir aujourd'hui, parce que ça pourra prendre beaucoup de temps, mais nous devons nous pencher, parce que si Dieu rappelle ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est parce qu'il y a quelque chose à prendre. Abraham, il est parti sans savoir où il allait, mais qu'est-ce que tu fais, Abraham ? Tu es un touriste tout triste, tu t'en vas sans savoir où tu vas. C'est étonnant. Il partit sans savoir où il allait. En général, quand on part, surtout lorsque Dieu nous appelle, il y a un plan bien établi. Qu'est-ce qui se passe? Il part sans savoir où il va. Mais il part. C'est déjà pas mal. On regarde ça ici, on peut le voir dans Hébreux 11. Hein, donc il partit sans savoir où il allait. Le chapitre 11, c'est ce chapitre par excellence de tout, pas les héros, mais tous les héros de la foi qui ont placé leur confiance dans le Seigneur. Il est parti sans savoir où il allait, parce qu'il a placé sa confiance en l'Éternel avant tout. Et parce qu'il a placé sa foi avant tout en l'Éternel, il a pu partir sans savoir où il allait, parce que le Seigneur allait lui parler. Et Abraham savait que le plan allait justement être donné par le Seigneur. Dieu l'entraîne à la foi. Je vous rappelle, la foi, c'est la confiance et la fidélité. C'est le principe même de la foi. Si tu as la foi en ton Dieu, tu as confiance et tu lui es fidèle jusqu'au bout. C'est ça le fait d'avoir la foi. Amen. Et Abraham a démontré dans sa confiance, même s'il ne savait pas où il allait, qu'il faisait pleinement confiance dans ce Dieu absolument extraordinaire. La foi dans la persévérance, parce que Abraham est parti regarder, il y a eu cette dimension de l'alliance qui lui a été donnée dans Genèse 12 après coup, quand on sait qu'il y a une promesse de bénédiction qui est étendue à toutes les familles de la terre. Genèse 12, c'est parce que Abraham est parti sans savoir où il allait, parce qu'il a placé la foi en son Dieu, que toutes les nations, toutes les familles seront en bénédiction. Et quand on parle de famille, c'est quoi? C'est l'intergénérationnel. Amen. Et la foi d'Abraham qui s'engage lui donne de vivre la promesse de Genèse 12, de Dieu qui lui dit dans l'Alliance, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Par la dimension de la foi. Et vous faites partie de cette bénédiction d'Abraham, vous qui êtes enfants, fils et filles de la foi. Amen. C'est une bénédiction qui a été engendrée par les générations qui ont suivi, tous ceux qui ont marché, qui ont placé leur confiance en l'Éternel. Mais c'est magnifique cela. Il y a cette promesse de bénédiction et de grâce dans Genèse 12 qui nous touche encore aujourd'hui parce que Abraham a eu confiance. Ce qui est extraordinaire, c'est que la foi va engendrer ce qui est impossible humainement parlant. Et toute la conception, bien entendu, d'Isaac dans la vie d'Abraham par l'épouse Sarah qui a dû un petit peu rire parce que comment est-ce que je peux engendrer en étant si vieille? C'était peut-être un poids plume de la foi à ce moment-là. Et Isaac, celui qui rit, on peut se moquer, a été prénommé de cette manière. Et Dieu fait avec. Vous le savez, ça. C'est extraordinaire. Quand Dieu a un plan, il fait quand même avec nos faiblesses. Ça me parle aussi beaucoup. Le plan de Dieu commence toujours dans quelque chose d'impossible, qui est impossible à accomplir humainement parlant. Et puis, le plan de Dieu commence toujours par une action de foi. Le plan de Dieu, rappelle-toi cela, commence toujours par une démarche de foi, un engagement de ta vie. Tu as reçu une vision de la part du Seigneur, mets-toi en marche et marche par la foi envers et contre tout pour justement que la chose puisse pleinement arriver selon le cœur de Dieu. Le Dieu d'Abraham, de ceux qui engendrent par la foi, de ceux qui se confient en l'Éternel. On a parlé d'Isaac. Alors Isaac, c'est le fils de la promesse. Isaac, c'est le fils du sacrifice. Isaac, c'est le fils de la consécration. Le Dieu d'Abraham, la foi. Le Dieu d'Isaac, la consécration. Le sacrifice, le fils de la promesse. Le fils de la promesse ne va jamais sans le sacrifice et le fils de la promesse ne va jamais sans la consécration. Nous sommes une génération des fils d'Abraham, d'Isaac, qui demandent la consécration, qui demandent le sacrifice et qui demandent aussi de croire à la promesse de Dieu. Et c'est là qu'Abraham va être testé dans son cœur. Tu me donnes le fils de la promesse, Seigneur, et tu me demandes de le sacrifier. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous rendez compte, la foi, La foi qui continue jusque dans la consécration totale, jusque dans le sacrifice total pour que la promesse puisse être pleinement accomplie. C'est à ce prix, et Dieu y tient. Lorsque Dieu se révèle à Moïse, il n'a pas dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse, de Samuel, de David, de Daniel. Non, ça s'arrête au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob parce que tout est dit dans ces trois types et Dieu veut sceller ces choses afin qu'on puisse pleinement saisir la promesse qu'il y a là. Dieu d'Isaac, on a pu rire. On a pu se fendre la malle avec Sarah. Tu te rends compte? Je vais engendrer dans mon vieillage. Mais c'est surtout là que Dieu va intervenir. Quand l'impossible, impossible humainement parlant, c'est là que Dieu va faire des miracles. Mais je voudrais tellement susciter la foi en toi ou ranimer cette foi en toi ce matin. Toi peut-être qui penses avoir tout perdu. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Souviens-toi ce qu'Abraham a dû vivre. Abraham a essayé de donner un coup de main au Seigneur avec la servante de Sarah, il y a eu Ismaël, et ce entre guillemets, malheur qu'on est en train encore de vivre aujourd'hui est là et qui va faire justement la fin du monde. Vous vous rendez compte? Mais Dieu ne tient pas rancune. Mais quand on essaie de donner un coup de main humainement parlant, ça ne marche pas. Mais Dieu ne se laisse pas avoir par les circonstances humaines parce que Dieu a tout renfermé dans son plan et gloire à Dieu parce que le plan de salut est aussi réservé pleinement aux musulmans. Amen. On proclame cela parce qu'ils sont aussi dans cette promesse de retour au Seigneur. Nous proclamons cela et même une erreur d'Abraham qui n'est pas vraiment reprochée par la suite, même si ce matin je suis un petit peu un donneur de leçons sur Abraham, il ne faut pas trop m'en vouloir, mais c'est juste pour souligner que quand on essaie un petit peu de donner un coup de pouce au Seigneur, ben le coup de pouce est trop, n'est-ce pas? Ça ne marche pas comme ça. C'est une foi complètement aveugle. Heureusement, on ne marche pas par la vue, on marche par la foi. Mais une foi qui est vivante en l'Éternel, qui s'appuie sur les promesses. Et Isaac a dû justement avoir un père qui devait le sacrifier dans la consécration totale pour que la promesse puisse pleinement être donnée. Bien sûr, Isaac est un fils de la promesse et un type de Christ, parce que nous retrouvons cette dimension du sacrifice de l'unique de Jésus à la croix. Et Isaac est un type de Christ. On retrouve ce même fonctionnement depuis le cœur de Dieu qui va donner son fils, son unique, pour que la consécration puisse se faire, pour que le sacrifice soit pleinement accompli et pour que la promesse du salut puisse pleinement être scellée. C'est pas extraordinaire? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur dans ce plan extraordinaire? Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! C'est tellement fort! Je redécouvre ces choses avec vous. Je suis en train de vibrer ce matin. C'est tellement extraordinaire. On a quelques chapitres clés ici. Genèse 18, à partir du verset 9. Genèse 22 aussi. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu d'Ésaü. Ben non. C'était l'aîné Ésaü. Mais qu'est-ce qu'il y a eu avec Ésaü? Il s'est fait eu Ésaü. Par un plat de lentilles. Mais quel scandale! Écoutez, on regarde un petit peu, ça c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, et pas d'Ésaü, mais de Jacob. Bien sûr, c'était deux jumeaux, et puis il y en a un qui sort, c'est Ésaü qui sort parce que c'est la fougue, il sort avant, et puis il y a juste Jacob qui est derrière, le supplanteur, qui essaye d'y choper le talon, mais tu m'attends parce que je veux aussi sortir avec toi, je veux sortir en même temps que toi, c'est extraordinaire cette dimension-là, le supplanteur, celui qui tient le talon de son frère, il a tenu son talon jusqu'au plat de lentilles. Quel filouze Jacob! Dans l'Égypte, sa maman, Rebecca, à la cuisine. Alors que le frangin se tue à la chasse, il arrive, il a la dalle, il n'en peut plus, il a faim. Il y a ses lentilles, je ne sais pas s'il y avait du lard dans ses lentilles. Je ne sais pas si ça sentait si bon, mais il y a ce plat de lentilles qui est là. J'ai faim. Et Jacob le sait, lui il arrive tout frais, tranquille. Il sort d'Égypte, sa mère, non mais je suis un petit peu caricatural ce matin. Il était à la maison, Jacob, tranquille. Tranquille Raoul, cool Raoul. Il y en a un qui se casse la nénette à l'extérieur, il revient bredouille. Bon, moi je vais faire un petit plat de lentilles. Je ne sais pas s'il avait quelque chose sur son cœur là, ce coquin. Mais c'était un filou Jacob. Hein. Il était rusé. Et pourtant, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur d'Ésaü ? Voyez, l'héritage dans cette figure, dans ce dernier événement, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'héritage n'est pas à mépriser. Ton héritage que tu as en Christ n'est pas à mépriser. Tu dois rester loyal à l'héritage au risque de profaner le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et de toutes les générations qui t'ont précédé. Quand tu méprises l'héritage et l'appel qu'il y a sur ta vie, il y a peut-être quelques vocations ce matin dans les cœurs qui naissent peut-être, parce que Dieu rappelle ces choses tellement importantes. Tu ne peux pas profaner ton héritage pour un bol de lentilles. Alors je dirais pas de bol pour toi si tu le fais. Dieu est vraiment radical. Parce qu'est-ce qu'il a dit plus tard ? J'ai aimé Jacob, le filou. Mais je l'ai aimé. Parce qu'il a compris ce que c'était que l'héritage. Et j'ai haï Ésaü parce qu'il a pensé à son ventre. À ses tripes, je ne suis pas en train de le blâmer. Mettons de côté la chair dans le plan de Dieu. C'est un appel spirituel pour marcher par l'Esprit. Amen. Nous devons comprendre cela pour que la promesse puisse pleinement être accomplie. Le Dieu d'Abraham par la foi, le Dieu d'Isaac, la dimension sacrificielle, le Dieu de Jacob, le Dieu qui respecte l'héritage, qui travaille avec l'héritage. Nous ne sommes pas de ceux qui allons renoncer à notre droit d'aînesse pour une soupe améliorée, pour un plat de lentilles, parce qu'une fois que la promesse est donnée, tout est fait, tout est dit pour une mise en œuvre. Amen. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nom de Joseph, de Moïse, de Samuel, de Saül, de David, tout, parce que tout est compris dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour que le plan puisse pleinement prendre place. C'est fait, c'est dit, il n'y a rien à rajouter. Ne méprisons pas l'héritage au risque de le profaner comme Ésaü. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. On retrouve cela dans Romains 9, 13 et les chapitres clés pour ce que je viens de nous dire et nous exhorter. C'est Genèse 25, versets 24 et suivants et Genèse 27 et suivants. De quelle génération sommes-nous ? De quelle génération es-tu ce matin ? Si tu ne saisis pas que tu fais partie de cet héritage du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il faut que tu te repentes et que tu viennes au Seigneur pour que pleinement tout ce qui est de l'héritage, de ces bénédictions qu'il y a en Abraham, en Isaac et en Jacob, tu puisses pleinement les vivre, pleinement les intégrer et pleinement les faire vivre à tous ceux qui vont suivre l'exemple de foi qu'il y a en toi. L'Église est la génération du Dieu d'Abraham. L'Église est la génération du Dieu d'Isaac. L'Église est la génération du Dieu de Jacob, issue de la foi pour marcher par la foi. Nous sommes fils et filles d'Abraham, nous qui avons la foi. On le trouve dans Galates 3, 7, dans Luc 19, 9, aussi pour Zachée. Zachée, ce voleur. Zachée qui restitue. Zachée qui accueille Jésus alors que Jésus lui dit « Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison ». Il y a cette citation aussi du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob chez le voleur. Vous vous rendez compte, c'est extraordinaire ça. Lorsque tu te mets en marche, quel que soit le contexte de ta vie, que tu te tournes vers le Dieu vivant, tu as beau être un meurtrier, tu as beau être un voleur, tu as beau être quoi que ce soit, et nous n'allons pas placer une échelle de valeur au niveau des péchés parce que le péché englobe tout. Le péché se mesure sur une échelle comme ceci. D'ailleurs, j'ai un témoignage d'une personne que je ne vais pas nommer qui une fois a eu un songe, qui s'est retrouvée sur un banc devant passer devant le Seigneur. Une personne qui a une vie droite, je peux vous le garantir. Une personne qui aime Jésus de tout son cœur. Et cette personne était assise à côté de qui ? À côté d'une prostituée. Le choc. Il n'y a pas d'échelle de valeur au niveau du péché Nous sommes tous pécheurs. Et si ce matin, tu dis, je n'ai pas vraiment besoin du Seigneur, tu es en danger. Parce qu'aux yeux de Dieu, ton cœur est aussi souillé et ton cœur est autant condamnable qu'une prostituée. Ça choque ? Ça, c'est la religiosité qui nous choque. Je dois vraiment me considérer comme un pécheur gracié par le Seigneur. Et qu'il n'y a pas d'échelle de valeur au niveau du péché. Nous sommes tous malheureusement englobés dans le péché, je dirais heureusement, parce qu'il n'y a pas de différence, pour être pleinement sauvés grâce au sang de Jésus. Alléluia. Et Zachée en a fait l'expérience. Zachée, en Luc 19, il y a cette promesse du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob aussi pour lui. Nous sommes aussi fils et filles de la promesse du sacrifice et de la consécration par Isaac. Nous sommes aussi fils et fils de l'Éternel dans l'héritage, écoutez bien, loyal et respectueux des choses du royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous sommes aussi de la génération du Dieu de Jacob qui respecte l'héritage. Ce matin, pour ne pas le nommer, Ariel a lu un verset qui m'a tellement encouragé lors de la prière que nous avions en bas avant le culte. Je vais le lire dans Romains 4, où il est dit à partir du verset 13. En effet, ce n'est pas par le moyen de la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou juste à sa descendance. C'est par la justice de la foi. Je relis et ça résume tout ce que nous avons dit ce matin. En effet, ce n'est point par le moyen de la loi que l'héritage d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa descendance, c'est par la justice de la foi. Si c'est par la loi qu'on est héritier, la foi est vaine et la promesse est annulée. Bien-aimé, la promesse est maintenue par la foi qui demande mon engagement. Amen.